La bande du jeudi. La bande du jeudi.
Bonsoir, quel plaisir de s'inviter dans vos oreilles pour ce nouveau numéro de la bande du jeudi, un épisode qui marque la fin de la saison régulière du HC Ajoie. 52 matchs, 13 victoires, 42 points et une nouvelle dernière place au classement. Alors inévitablement qu'on va en dresser le bilan dans les prochaines minutes, mais on va aussi se projeter sur la série de play-out, troisième exercice du genre pour le HC Ajoie depuis son intégration dans l'élite du hockey suisse. Dès le 21 mars, il faudra battre Ambry 4 fois pour sauver sa peau et éviter un potentiel barrage. Notre invité connaît tout ça puisqu'il est l'homme qui a le plus porté le maillot durant la dernière décennie. Phil Michael DeVos nous accompagne. Bonsoir, bienvenue.
La bande du jeudi.
C'est parti pour la 14e bande du jeudi de cette saison avec le toujours fidèle Rafi. Salut Rafi.
Salut Cyprien, heureux de te voir parmi nous pour cette émission.
Partagé, le désormais routinier Yann. Salut Yann.
Ouais, je suis routinier plus que routier ou je ne sais pas quoi, mais salut Cyprien,
plus que routier,
salut tout le monde.
Plus que routier en tout cas.
Plus que routier, ouais.
Et pour vous accompagner, effectivement, une licence B cette fois-ci, j'espère que ça vous conviendra, puisque je remplace Michel Léoni. Oui, non, c'est pas le Phil.
Ah oui, c'est Phil.
Ouais, je regardais.
Phil, en fait, Phil, c'est le fidèle et le routinier, en fait. Lui, il compile les deux adjectifs. Salut Phil.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Bienvenue pour cette nouvelle édition. Ça va, pas de blessure?
Non, ça va bien.
On est comment là, maintenant qu'on est entre deux?
On essaie de tourner la page. Comme ça a déjà été dit, on a quelque chose de très important qui arrive à courte échéance, dans une 10-12 jours, donc il va falloir être prêt.
Sur le grill.
C'est moi qui vais parler un petit peu de Phil Michael Pinard DeVos. On n'utilise pas très souvent tous tes noms. Un choix personnel, je ne sais même plus, ou c'est juste, tu t'as toujours appelé juste DeVos.
Au Québec, ça commence toujours par les trois premières lettres du nom de famille, et puis c'est le Pinard en premier. Donc, exemple, sur ma carte d'assurance maladie, sur mon permis de conduire, ça va être P-I-N-P pour Pinard et pour le Philippe. Donc, il est important, sinon, même si je ne le mets pas dans mon dos, parce que tous mes papiers officiels, c'est le P-I-N qui prime.
Et sur le passeport suisse, alors, ce sera écrit quoi?
Philippe Michael, peut-être même Jacques Pinard DeVos, parce que j'ai aussi un Jacques là-dedans qui est sur les documents officiels aussi, mais qui n'est pas dans mon nom.
Et il est pour quand alors ce passeport?
Ça suit son cours. Le cheminement va bien. Puis voilà, même moi honnêtement, j'ai pas de date officielle, on m'a rien dit, hein, c'est pas moi qui décide, mais les choses. Ça suit son cours.
Oui, parce qu'on a entendu beaucoup de choses ces derniers temps, voilà, des bruits de couloir ou autre et tout. Est-ce qu'il y a une probabilité de voir Phil Michael DeVos avec un passeport suisse, disons, dans la prochaine série de play-out, c'est-à-dire dans l'horizon de quelques jours?
Non, aucune.
Pareil. Et pour la prochaine saison?
On espère vivement.
Ça veut dire quoi pour toi, le fait d'avoir cette nationalité suisse? J'imagine qu'il n'y a pas seulement une histoire de licence d'étranger ou pas pour un match de hockey sur glace.
Ouais, ben tu sais, je suis aussi conscient à mon âge de devenir Suisse, ça va aussi aider à prolonger ma carrière. Mais d'abord et avant tout, c'est surtout pour ma famille, advenant un non-renouvellement de mon contrat ou si j'arrive pas à me trouver du boulot ici, j'ai pas nécessairement le droit de rester en Suisse plus de 6 mois. Je deviens étranger, je deviens voyageur et tout ça. Donc, pour le bien de ma famille, je pense que c'est un super beau pays. J'ai été très bien accueilli. Et puis, je m'y vois vivre pour le restant de mes jours. Donc, ça n'est peut-être pas encore mon pays, mais ça va le devenir. Donc, c'est très important pour moi.
Ben voilà, tu me lances sur une question que j'avais pour après. Tu parles justement que tu as envie de rester apparemment ici. Ton avenir après, OK? Tu le vois justement en Suisse?
Oui, absolument. J'ai commencé mes cours pour jeunesse et sport, pour entraîneur, des trucs comme ça. J'aimerais bien rester dans le domaine du hockey ou tout ça. Voilà, c'est pas un métier qui est très, très stable. Hein? C'est pas nécessairement facile non plus. Il y a pas beaucoup d'équipes. Donc voilà, mais peut-être devoir partir ailleurs en Europe aussi. Je sais pas, c'est très vague en ce moment, mais j'aimerais rester dans le milieu du hockey et puis m'établir en Suisse en permanence.
Il y a l'Académie du HC Ajoie pour commencer à faire tes gammes. C'est aussi une bonne opportunité peut-être de rester en Ajoie et puis d'aider la jeunesse à Joulotte.
Oui, exactement. Mais comme je dis honnêtement, j'ai tellement la passion encore que je me suis pas trop focussé. J'ai juste pas envie d'arriver à la fin de ma carrière et puis de pas avoir de diplôme, de pas. Donc c'est pour ça que j'ai commencé. Mais je veux jouer encore quelques années. Je pense que c'est un privilège de faire ce qu'on fait. Puis j'ai un oncle qui a joué longtemps en France, tout ça, plein de collègues, d'amis. Puis ils m'ont dit, Phil, joue le plus longtemps possible. Après ça, tu pourras plus jamais revenir en arrière. Puis de cette façon-là, tu n'auras pas de regrets. Donc, voilà, je vais essayer de suivre leurs conseils. Puis après, rester dans le milieu du hockey, ça me ferait plaisir.
Tu te vois jouer encore combien de temps?
Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible.
C'est qu'il n'est pas seul à avoir la décision en main. Hein. Il y a un contrat, ça va dans les deux sens. Hein. Il y a sa volonté aussi. Puis après, il y a aussi la volonté des clubs pour l'engager ou pas.
Ouais, puis il y a aussi le physique. Hein. Bon, après cette saison, apparemment, le physique, tu l'as. Hein. Je trouve, on en parlait, je crois que Cyprien, durant un match, je ne sais plus quel ou quelqu'un d'autre, du journaliste. Mais on te trouve cette année super en shape, puis très, très, très mobile sur la glace. Presque plus mobile que tes débuts au Chajoie quand tu avais 10 ans de moins.
Ouais, c'est gentil. Je pense pas être celui qui a eu le plus de blessures dans sa carrière, du moins sérieuses. Je pense pas que je suis celui qui fait le plus de folie avec son corps non plus. Je pense que c'est important. C'est notre outil de travail, donc je pense que ça m'aide un petit peu. Puis j'espère qu'en bout de ligne, c'est ce qui va me permettre de faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire, je me répète, de jouer le plus longtemps possible.
Justement, pour ça, on sait que Pierre-Édouard Belmar, par exemple, il suit un régime très strict au niveau nourriture. Toi, tu as des secrets un petit peu de nourriture physique, entretien que tu as pour toi?
Un petit peu, mais je fais pas non plus. Je fais plus attention à ce que je mange que les quantités. Je mange à ma faim, des trucs comme ça, mais. Je mange pas n'importe quoi. On n'est pas avec ma femme et moi, on aime bien cuisiner, donc on va très rarement au restaurant, des trucs comme ça. Donc les fast-food, on n'est pas fort là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est plus de bien manger que la quantité. Si jamais j'ai envie d'un peu plus de légumes ou de riz, on se gêne pas, mais c'est plus la qualité de la nourriture. En Suisse, on est chanceux. En plus, la viande, tout ça, le poulet, c'est top top.
Pour revenir sur ta carrière et tes saisons qui te restent encore devant, il y a quelques 8 Ouachajois qui ont fait...
Attention, tu commences comme ça.
Ouais. Non, mais c'est que c'est quand même un numéro mythique Ouachajois, numéro 8. Il y a avant
il
moi...
Il va les citer, évidemment. Hein? Il va les citer, là.
Ah bah, bien sûr. Il va je vais citer mon idole, surtout, Christophe Berda.
Ah, je pensais à lui aussi, c'est bien.
Christophe Berda, qui a joué 14 ans. Avec le numéro 8 dans le dos. Un autre joueur un peu plus saut a joué également pendant 14 saisons avec le numéro 8. T'en es à 11, donc on repart pour 3. Ça marche pour toi?
Ça va plus longtemps possible.
Pour ceux qui n'avaient pas suivi, le joueur un petit peu plus saut, c'était donc, on parle bien de Yann Voya.
Oui. Hein. Après, on dit que je parle trop de moi. Donc.
Et il me semble que Yann Voya, il a aussi eu le 81,
ouais,
non?
81, bien sûr.
Ouais, c'était les années, c'est que tout... voilà, Hervé Meyer qui avait pris le. On prenait les dates de naissance à l'époque comme numéro. Puis moi, j'avais pas envie de quitter mon 8. Puis j'ai juste rajouté le 1 derrière pendant une saison, je crois, pour quand même garder ce 8 parce que 74, ça me parlait pas. Puis moi, j'ai toujours voulu le 8. Puis je le garde.
Qu'est-ce que ça te parle, cette histoire-là de 3 fois 8
C'est bien, je pense que ça donne. Des envies aux jeunes, j'espère. Ça fait des modèles, c'est important d'en avoir. Moi, j'en avais aussi quand j'étais petit.
Je rebondis sur une question d'auditeur parce que il y a quelqu'un qui nous a dit, c'est Thomas Grimm des Breleux. Qui est ton idole du hockey préféré, vu que tu parles des quand j'étais jeune?
Ah, c'est une excellente question, ça.
Le fameux de Johnny, rappelle-nous le nom de l'idole de Johnny.
Lyle O'Deline.
Voilà.
Non. Non, mais ça, c'était pas sérieux. Johnny, il a dit ça pour se débarrasser de la question.
Ah, non, c'est que quand il jouait au quai de rue, apparemment, il voulait être Lyle O'Deline.
Oh là là, ouais. Non, moi j'ai essayé de construire mon jeu autour de celui de Peter Forsberg. Quand je jouais pour l'Avalanche du Colorado, quand ils sont partis, moi j'aimais bien Patrick Roy, tu sais, quand on est petits, les gardiens là, masqués, donc j'aimais bien Patrick Roy, puis il est parti au Colorado dès la première saison de l'Avalanche là-bas. Donc j'ai commencé à suivre l'Avalanche beaucoup plus que le Canadien de Montréal. Et puis il y avait ce numéro 21 qui gagnait toutes ses batailles dans le coin, qui protégeait la puck comme si c'était son enfant, qui faisait tout bien, qui pouvait marquer, qui pouvait passer. J'ai essayé de construire mon jeu autour de celui de Peter Forsberg.
Sinon, ouais, on m'a dit de ne pas parler de ta carrière, hein, parce que t'es connu, on l'a déjà fait 1000 fois, mais j'aime bien pas écouter ce qu'on me dit, hein, Rafi.
vas-y, fonce.
Donc, parce que ton parcours, il ressemble pas mal à celui de Johnny. Hein. 5 années en junior majeur, 3 années en EHL et EHL, une année en Italie. Et puis, bah, t'as accumulé les titres, hein, 2 titres de Swiss League, une coupe suisse, 1 fois meilleur buteur de Swiss League, 6 fois meilleur passeur, 4 fois meilleur compteur de Swiss League. Puis t'as une Calder Cup aussi dans ton palmarès. Si on doit t'en laisser qu'un de ces titres, je sais, on te l'a peut-être déjà demandé, mais ça serait lequel?
Aucune idée. Ils sont tous magnifiques. Ils sont tous importants. Ils ont tous leur petite saveur. Pour moi, c'est impossible de choisir en ce moment.
Et au moment de soulever la Calder Cup, quoi, tu étais encore voilà, un jeune espoir prometteur. Tu rêvais de quoi à ce moment-là?
De jouer à NHL puis de gagner la Coupe Stanley.
Qu'est-ce qui t'a manqué, tu penses?
La vitesse.
Dans ce qui me reste des images de Phil Michael DeVos, c'est la victoire contre Cloton, l'interview mythique après cette série où il s'est passé tellement de choses, t'as dû vivre tellement de pression, ça a dû être tellement dur à vivre pour toi. Voir cette sincérité, cette passion, cette émotion en ce moment-là, ça reste un grand moment.
Ouais, moi aussi. Pour moi aussi, parce que 100% d'accord, c'était vraiment le match numéro 6 contre Cloton, c'est le match de toute ma carrière où est-ce que j'ai senti que j'avais le plus de pression. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu. J'avais joué des gros matchs dans plein de sports, représenté ma région, ma province au foot aussi quand j'étais jeune. Tout ça, j'essaie de me rappeler. Avec tout ce qui se passait à Cloton, puis c'était pas juste professionnellement, mais c'était côté familial aussi, de tout devoir déménager, tout ça. Puis de regarder le président, puis de dire après ça à Pat, « Bon, on a perdu, mais pas grave, bonne chance, continuez comme ça, moi je m'en vais en National League. » La pression que j'avais de ce match-là, puis avec Johnny, puis de la manière qu'on a répondu. Honnêtement, c'est 12 à 15 heures, là, à partir de midi, où est-ce que je suis rentré dans le bureau de Vincent Leschen puis Gary Sheehan en criant puis en claquant la porte pour savoir ce qui se passait jusqu'aux petites heures de la nuit. C'était 12 à 15 heures que je vais me rappeler pour le restant de mes jours.
On pourrait en faire un film quasiment de ces 12-15 heures-là, non?
Ouais, on pourrait avoir de la semaine au complet, je pense. Non, mais c'était quelque chose je peux pas l'expliquer. Je peux tout simplement pas l'expliquer.
Bon, sinon, un peu plus d'actualité. Bon, l'année passée, je trouve que bah, t'as su te rendre indispensable... Puis renouveler un peu ta façon de jouer. Hein. Tu étais un passeur, organisateur du jeu sur Powerplay durant des années ou à Chargeois. L'année passée, tu t'es rendu indispensable en Powerplay devant le but, en marquant les buts dans les lucarnes et puis les petits coins à gogo. Cette année, je trouve que bah, tu dois t'adapter régulièrement à tes nouveaux compagnons de ligne. Beaucoup de changements, beaucoup d'alliés qui tournent, ça change. Tout le monde dit que tu es un joueur très intelligent. Comment tu as fait ce process pour pouvoir te renouveler et puis trouver une place pour pouvoir aider l'équipe et puis prolonger ta carrière aussi?
Oui, exactement. Je pense que c'est ça la clé. Je l'ai fait. Je vais devoir le refaire l'année prochaine aussi en tant que Suisse. Mon rôle va certainement changer. Donc voilà, ça fait partie... d'être un athlète professionnel, ça fait partie des choses à faire justement si on veut continuer à jouer, si on veut continuer autant moi de progresser en tant que joueur plus personne que l'équipe. Donc voilà, j'avais aussi des magnifiques passes qui m'arrivaient directement sur la palette. Faut la mettre au fond, mais ça reste un jeu d'équipe. Donc avec Yeri, on s'entendait bien. J'essaie de pas trop me casser la tête puis de faire ce qu'on me demande au meilleur de mes capacités.
Yann a parlé avant de ces séquences la saison passée en powerplay où il y avait notamment ben voilà Jiri Turkulainen et toi dans le slot. Voilà, ça a donné beaucoup de buts. Pourquoi c'est une séquence qu'on n'a pas réussi forcément à reproduire cette saison durant la saison?
Une excellente question. Je pense que les équipes se sont adaptées un petit peu aussi. Après ça, Jiri a manqué beaucoup de matchs. Tu sais, une séquence comme ça, des fois, ça en prend juste un parce que l'année passée, c'était pas au début de la saison. Ça a commencé après 10-15 matchs peut-être. Donc, ça en prend un, puis après ça, ça part une lancée. Puis voilà, c'est difficile à expliquer. Je sais pas non plus. Hein. J'aimerais bien donner une réponse très claire et nette. Mais voilà, c'est un jeu, peu importe qui sera là l'année prochaine, je sais que Yeri aime ce jeu et puis que la personne va avoir des opportunités. Je pense que c'est plus une pause qu'un abandon total de ce petit jeu derrière la cage. On risque de le revoir prochainement, je suis pas inquiet là-dessus.
Autre question qu'on a reçue des auditeurs, c'est Stéphane Rebeté qui l'a posée. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit « Je sais que tu es très minutieux et ordré. ta place dans la chambre est la mieux rangée de l'équipe. Il est bien informé, hein, Stéphane Rebeté. Puis étant papa aujourd'hui, es-tu toujours ordré ou ta fille t'a fait changer cela?
Non, je suis toujours. Je suis toujours. Dans le vestiaire, c'est surtout par respect pour les préparateurs. Pas le préparateur physique, pardon, le préposé à l'équipement. Il en font déjà beaucoup. Donc voilà, c'est comme ça maintenant à la maison. C'est vrai que parfois, je suis peut-être un peu trop... j'en demande un peu trop, mais voilà, j'aime bien que ça soit propre, j'aime bien que ça soit rangé, et puis c'est comme ça. Mais non, c'est vrai qu'il est bien informé, ce monsieur, il est bien informé, c'est pas mal ça. Je suis curieux de savoir sa source.
Parlons de ça, justement, de ses fans, t'es là maintenant depuis très longtemps à Cherjoie, t'as quelle relation avec les fans à Joulot?
J'ai une très belle relation, les gens sont toujours très très sympathiques, certaines personnes parfois peuvent m'accoster, peuvent discuter. Exemple, hier, je suis allé depuis, ça faisait 4 mois, je pense, j'avais pas été taper des balles au practice à basse-cour. Et puis, tout de suite, ben, je vois monsieur, monsieur DeVos, oui, la saison terminée, blablabla. Donc, on commence de jaser. Et puis, moi, ça me fait plaisir, il n'y a jamais de souci. Puis, ça fait aussi partie du fait d'être un joueur d'hockey dans la région. Et, mais au contraire, moi, j'aime bien, je suis francophone. Ça me dérange pas quand les gens viennent m'accoster ou des trucs comme ça, loin de là.
Le débrief. C'est parti pour le débrief. Donc, 3 étoiles ou 3 joueurs avec des étoiles et puis une épine. Le schéma n'a pas changé pour cette dernière du championnat régulier. Je m'y suis collé. Je vous propose d'y aller crescendo. On commence par les 3 étoiles, c'est ça? Ou bien vous voulez tous les noms d'entrée?
Décrescendo, alors.
Alors, on dit décrescendo. On commence par les 3 étoiles, c'est ça?
Ouais, on t'écoute, volontiers, Cyprien.
Kylian Motet. J'ai choisi Kylian Motet pour les 3 étoiles, donc sur ses 5 matchs depuis les Jeux Olympiques, parce qu'en fait, Kylian Motet, bah, c'est notamment les 2 coups de canon retrouvés à 5 contre 4, contre Genève, à Lausanne. C'est aussi cette passe à l'aveugle que j'estime décisive contre Ambry.
Pardon, à l'aveugle?
C'est une expression.
À l'aveugle?
C'est une expression.
Il n'a pas regardé où il la mettait. Contre
Aïe, à l'aveugle? Désolé d'interrompre à l'aveugle.
J'ai déjà eu ce débat avec un ancien joueur du HC Ajoie. Le terme à l'aveugle n'est pas si péjoratif que ça. Oui, ça veut, on a l'impression que c'est
volonté. Il prend péjorativement?
Mais bien sûr, à l'aveugle, ça veut dire sans regarder. À l'aveugle, ça veut dire quelqu'un qui ne voit pas. C'était pas à l'aveugle, c'était millimétré, anticipé. C'était pas à l'aveugle.
Alors, on n'a pas la même version de l'expression à l'aveugle, effectivement.
C'est drôle.
C'est marrant parce que c'est dit de façon très positive.
En fait, dans un vestiaire d'hockey, dans n'importe quel coach, quand le coach il va dire tout le temps « arrêtez les blind passes », ça veut dire « arrêtez les passes à l'aveugle », « arrêtez de faire les passes sans regarder pour juste la mettre devant le filet », c'est très péjoratif en termes d'hockey à l'aveugle.
Okay. Allez, c'est intéressant.
Très, très intuitive, on va dire.
Alors, on utilisera l'adjectif intuitif, puis on fera attention, Yann, quand on commente les matchs, parce qu'on l'utilise.
Alors, moi, je sais ce que ça veut dire une blind pass, et puis, là, sur le coup,
Motet savait
très bien où était.
On a tous vu qu'il n'avait pas regardé, c'est ça que je voulais dire.
Alors, non, on n'est pas d'accord. Il a regardé.
Ouais, moi, je ne suis pas d'accord non plus. Il regarde. Il reçoit le puck, il regarde, il sait très bien qu'il va arriver de l'autre côté.
Il sait très bien où était Onka, mais il n'a pas suivi
l'action. C'est ça que je voulais dire.
Des joueurs de hockey assez intelligents, il ne faut pas non plus fixer le verre. Hé, les gars, je vais mettre la passe là-bas.
D'où l'expression qui met à l'aveugle ou cette intuition.
Non, dans l'espace, peut-être, mais pas à l'aveugle. C'est sans regarder. Non, on va rester ici toute la journée. On va avoir une émission de 2 heures.
On va débattre pendant 2 heures sur l'expression à l'aveugle. J'ai bien fait de la dire, en fait. J'ai même pas prévu de la dire. Non, donc vous avez tous eu le temps de regarder 18 fois l'image de Kylian Motet qui remet cette très belle passe intuitive à Onka pour l'égalisation contre Ambry. Enfin, voilà, tout ça fait que j'estime qu'il mérite les 3 étoiles pour cette période de cette séquence de saison. J'ajoute encore une statistique. Laquelle? Kylian Motet est devenu, en marquant à Lausanne, le premier Suisse à marquer 10 buts en une saison depuis Thibaut Frossard lors de la première saison du HC Ajoie. Le seul qui avait fait ça, c'était Thibaut Frossard lors de la première saison. Et on a parfois entendu « Ouais, Kylian, il n'est pas en forme, il n'est pas incroyable parfois. » Moi, je pense parfois qu'il n'a pas été utilisé comme on aurait pu l'utiliser pour qu'il marque davantage. Et en l'occurrence, il ne faut pas oublier que c'est la première fois avec ses 20 points et dont 10 buts, c'est le premier Suisse qui marque 10 fois dans un championnat régulier depuis Thibaut en 2021-2022.
On en a beaucoup attendu de Kylian Motet cette saison aussi. Peut-être qu'il s'est mis, on lui a mis aussi beaucoup de pression. Et on rappelle le type de joueur et le type d'attaquant qu'est Kylian Motet. C'est-à-dire qu'il est capable, sur un coup, sur un but, de faire la différence et d'aller chercher des actions qui comptent et qui peuvent rapporter des points, quoi. C'est cette trempe-là. Et puis là.
C'est le but à Kloten, c'est le but à Zurich, par exemple.
Ça rapporte des points, c'est ça. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il est là. Et puis, voilà, maintenant, la question va aussi se poser si Kiki sera là pour une deuxième saison au HCA Jour. Mais on voit qu'il peut évidemment peser dans le jeu offensif. Il doit peser dans le jeu offensif de HCA.
Rien d'autre à dire. Ouais, il s'est mis. On lui a mis peut-être beaucoup de pression en attendant beaucoup de lui ici. Il s'est mis beaucoup de pression en changeant de club après toutes ces années. Je pense qu'il a voulu prouver aussi qu'il n'était pas fini en tant que joueur. En fin de carrière, on a toujours aussi envie de finir le mieux possible. Mais voilà, il répond en cette fin de saison. Je suis content pour ses buts qu'il marque parce que dans la série de play-out, on aura besoin de joueurs comme lui qui vont aller chercher des buts importants. Et puis... c'est bon pour l'équipe, c'est bon pour lui.
Phil, pour toi, c'est un bon coéquipier. Vous avez vu beaucoup dans la période de préparation, jouer ensemble, ça matchait bien entre vous deux. Dans le championnat, on a quand même peu vu le duo Motet-De Vos, finalement, sur l'ensemble de la saison. C'est agréable de jouer avec un ailier comme Kylian?
Oui, absolument. C'est un joueur aussi qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de vécu. Donc, si jamais il y a un petit truc qui se passe pas bien, c'est pas celui qui va perdre sa tête ou qui va paniquer. Donc, c'est dans les moments plus difficiles, c'est important. Puis moi, comme Yann vient de dire, je pense que ça va être un joueur clé pour nous lors de la série contre Ambry.
Deux étoiles, je les ai données aux nouveaux, Tarmo Reunanen, que là aussi, j'estime qu'il a fait une belle arrivée au HC Ajoie. On a senti qu'il avait du métier, qu'il a un bon patinage, un excellent shoot. Alors certes, il n'a encore pas marqué, mais on a vu la puissance et la précision de son shoot. Il a impliqué sur les deux buts contre Ambry. On vient de parler de celui de Motet, mais c'est surtout celui d'avant, celui de Nettinen, où il tire sur la bande derrière et Nettinen parvient à marquer le premier but. Il est impliqué là. Je trouve qu'il amène une stabilité assez intéressante au niveau défensif. Et je ne serais pas surpris, en tout cas je trouverais assez pertinent que le HC Ajoie le signe pour la saison prochaine. Et sur les quelques matchs qu'il a amenés là, on a vu moi j'ai trouvé un bon Tarmo Reunanen.
Ouais, c'est un joueur des premières passes qu'il fait, le premier match qu'il a joué. On voit directement la qualité de passe, de première passe qu'il a. Il est très précis, il est patient avec le puck. C'est un bon patineur, bon shooter. On a vu sur les vidéos quand Rafi nous a envoyé le Michigan qui a des skills. Je pense qu'il a ça, il est très complet. Et puis j'apprécie la façon dont il joue. Je pense qu'il peut encore amener un peu plus offensivement. Après voilà, il a aussi associé à Onka. Donc Onka, on connaît ses vilités offensives. Donc c'est aussi plus facile, quoi, je pense, les derniers matchs pour Onka quand il sait qu'il a son coéquipier Runaun derrière qui bétonne un petit peu la défense, d'amener encore un peu plus d'offensive. J'ai trouvé ce duo assez intéressant durant les matchs qu'ils ont joué ensemble.
Ouais, il a même dû prendre le lead lundi soir à Lausanne, l'absence d'Anthony Onka. Moi, j'ai aussi beaucoup apprécié son troisième tiers de son premier match. Là, c'était la semaine passée. C'était face à qui, son premier match? On l'a vu.
Ambry.
C'était Ambry, j'imagine. Ambry,
ouais, je crois.
Très, 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 très impliqué offensivement. Oui. Je crois que c'était une belle arrivée, quoi.
Quelque chose à ajouter sur le profil et les descriptions qu'on en fait, Phil?
Non, rien du tout. Dans le vestiaire, c'est un super bon gars aussi. T'sais, on avait tous entendu les rumeurs de ce qui s'était passé dans son ancien club. Et puis, même lui, il s'est pas caché. Il nous a expliqué un petit peu. Mais quand vient le temps de discuter avec lui, des trucs comme ça, super bon gars, très bon type. Donc, c'est agréable aussi.
Une étoile, la dernière, je l'ai donnée à Jérémy Vic. Pour en fait un geste ou une action, c'est le but qui marque à Lausanne. Parce que c'est un but où... Il y a de la conviction, il y a de la détermination. Il attaque le but depuis la périphérie. Il montre qu'on n'a rien lâché. C'est quelque chose qu'on a rarement vu finalement cette année, des joueurs qui attaquaient le but comme ça. Et aussi une rage d'avoir marqué. On est à 12 secondes de la fin du tiers, il y a 2-2. Et on a bien vu dans son attitude d'après qu'il y avait une vraie conviction et une vraie joie qu'on n'a pas toujours vu ces derniers temps, je trouve, lorsqu'Ajoie marquait des buts.
Ouais, ben moi, j'avais également pensé à lui. Il a... Il a joué aux côtés de Johnny et Reto Schmutz les matchs précédents dans la quatrième ligne. Là, il était associé à Belmar. J'ai trouvé que ce duo Belmar-Vic a bien fonctionné du côté de Lausanne. Et puis, ben voilà, il est passé à l'aile. Il a joué aussi au centre. Voilà, c'est ce côté polyvalent du joueur qui fait du bien, puis qui donne un petit peu cette profondeur un petit peu à ce HC Ajoie. Et puis voilà, détermination. Puis tu l'as dit, un but, il faut aller le chercher. Parfois, il y a des moments où il faut aller chercher le but, puis aller provoquer un petit peu plus dans la zone adverse.
Très bien, vous avez tout dit, c'est parfait. Ouais, moi, je trouve que... Ouais,
il est tranquille aujourd'hui, il y en a un dans
Non, mais là, vous êtes assez loquace, vous avez dit plein de choses. C'est vrai que je ne vais pas redire les mêmes choses. Je trouve qu'il a été très régulier durant la saison, qu'il a été trimballé à l'aile, au centre, dans le haut des lignes, en quatrième ligne. Il a eu à peu près tous les rôles cette année. Aussi en box-play, il est super important. Pour l'ensemble de sa saison et puis pour le but à Lausanne, je te rejoins totalement.
Il ne reste plus qu'à mettre l'épine à Greg Ireland, parce que je trouve qu'il a quand même finalement jamais véritablement su trouver la solution sur l'ensemble de la saison. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, sa gestion humaine a parfois été vraiment discutable sur l'ensemble du championnat. Sur ces 5 derniers matchs, là, on a aussi vu, alors il a peut-être testé tout, hein, mais on a vu un Belmar utilisé comme checkline avec Boson et Cavalleri. Deux matchs plus tard, on le retrouve en première ligne avec Nettinen pour marquer des buts, alors que finalement, il en a mis qu'un sur l'ensemble de la saison. Moi, je reste persuadé que c'est un gars comme Phil qui doit être dans une ligne comme celle-là, mais voilà, je ne suis pas contre du HC Ajoie. Mais je trouve quand même que sur l'ensemble, il y a un coaching un peu poussif, parfois de sa part à la bande. Et finalement, j'ai quand même le sentiment qu'on pouvait se permettre d'en attendre plus de la part du coach. Je sais pas si c'est lui ou pas, mais il manque parfois cette petite flamme, cette petite étincelle pour retourner un match. Et je suis pas convaincu que Greg Ireland l'amène. Mais voilà, on n'est pas sur le banc, on voit pas tout évidemment nous hein, depuis notre position. Mais je trouve que si Ajoie a eu beaucoup de peine parfois, c'est aussi parce que le staff n'était peut-être pas toujours dans le juste ou a usé sur les mêmes hommes toujours à des moments parfois clés. Je pense au 6-5 de fin de match par exemple où c'était quand même assez régulièrement les mêmes. Et voilà, j'aimerais bien que Greg Ireland puisse nous sortir 4 blocs offensifs béton pour le play-out. Et je pense que lui aussi, bien sûr, aimerait ça. Mais j'ai choisi de mettre l'épine à l'entraîneur.
Pour rebondir sur tes propos et puis sur ces séquences de dernier match, moi j'ai un moment, c'est le deuxième tiers de samedi face à Genève-Servette. Et puis il ne se passe rien. Le HC encaisse les buts et il ne se passe rien. Il y avait possibilité d'actionner un levier à un moment et peut-être de changer de gardien. Et l'équipe a tardé à le faire. Parfois il y a une certaine une passivité, je dirais, à la bande et puis qui est parfois déconcertante.
Je vous rejoins sur votre analyse. Moi, je suis pas non plus satisfait de la façon dont il est derrière le banc, puis qui coach. Après, depuis le début de saison, il est arrivé avec son leitmotiv de « on va reprendre moins de goals cette année ». Ben, c'est raté. On a repris 175 cette année. 178. On a repris 175 les deux dernières années. Donc, on n'a vraiment pas diminué le nombre de buts reçus avec un système qui est quand même très perméable. Puis pour moi, je l'ai dit plusieurs fois durant cette année, me plaît pas dans le style de jeu. On a des joueurs, on parlait de Motet avant, ou des Sopa, ou Johnny, ou Nettinen, qui sont des très bons patineurs. Puis je trouve qu'on n'utilise pas assez le patin. On est trop statique dans notre système. Et puis, je pense que l'envie est là du côté de Greg Ireland, mais il aurait besoin peut-être d'œil extérieur pour pouvoir un petit peu le sortir de son système et puis où on a l'impression qu'il est vraiment coincé dans ses certitudes. Puis on aimerait peut-être que quelqu'un vienne lui dire depuis l'extérieur d'adapter un petit peu, d'adapter les choses.
La bande du jeudi.
Voilà, on y est gentiment hein, maintenant. En mode play-out, tu parlais, Yann, d'union sacrée. C'est les 10 jours qui nous amèneront à ce premier match à la Gotardo Arena. Il y a quelques éléments importants à évoquer hein, sur cette série. Je ne sais pas si on aura le temps d'en faire tout le tour dans cette chronique, mais il y a un rôle qui sera évidemment clé dans celui d'un play-out, c'est le rôle du gardien. On le sait, chaque fois c'est comme ça. C'était déjà le cas face à Langnau, c'était aussi face à Lugano. On a pléthore de gardiens au HC Ajoie cette saison. On met qui dans les buts à Ambry?
Très bonne question. Et je pense que ça fait déjà quelques jours, voire même quelques semaines, que le staff réfléchit à cette problématique. De souvenir, j'ai quand même l'impression que sur les dernières séries, on a aussi changé de gardien en cours de série, que ce soit en play-off ou en barrage. Ce qui veut dire qu'on aura besoin des deux gardiens, des trois gardiens disponibles. J'imagine qu'Antoine Keller devrait commencer cette série face à Ambry. Et j'imagine aussi que d'une manière ou d'une autre, Damiano Ciaccio, qui a du vécu, qui maîtrise et qui connaît ce genre de duel, aura aussi son mot à dire et puis sera peut-être aussi important dans ce play-out. Un play-out qui est un petit peu différent des play-outs qu'on a connus par le passé, parce que ça sera deux matchs par semaine. Hein. C'est quand même une donne qui peut changer un petit peu. Hein. Il n'y aura pas des matchs tous les deux ou trois jours. Avec beaucoup d'intensité, peu de répit. Là, on va jouer samedi, mardi. Ça peut influencer aussi, et notamment dans la position des gardiens, où ils auront aussi un peu plus de répit.
Yann, on commence avec Keller ?
Pas forcément. Si on regarde les statistiques de la saison, c'est Ciaccio qui a joué le plus de minutes contre Ambry. Il est à 94% sur les 90 minutes qu'il a joué, 92 minutes. Keller en a joué 54, il est à 90% d'arrêt, donc on a quand même des pourcentages d'arrêt assez intéressants pour nos deux gardiens. Dans ce domaine-là, on bat Ambry, parce que eux, contre nous, ils sont... Gilsen, il a 75% en ayant joué 50 minutes, après il a été changé. Et puis Wüthrich, il est à 89%. Donc je pense qu'au niveau gardien, on est mieux armé qu'eux. Qu'on parte avec Ciaccio ou qu'on parte avec Keller, pour moi, les deux sont possibles, mais... De ce que j'ai vu, puis de ce que je ressens personnellement, Ciaccio, il est plus capable d'aller chercher un match à lui tout seul que Keller.
Alors, c'est la question que j'allais me poser, parce que moi, évidemment qu'on n'est pas dans la tête de Greg Ireland et du staff, mais moi, j'ai le sentiment que c'est Ciaccio qui peut nous sortir cette série. Sur l'expérience, sur ce côté capable de gagner un match, de faire tout d'un coup un arrêt complètement dingue, comme on l'avait vu à Langnau cette saison, comme on l'a déjà vu dans des play-out aussi. Et puis, il y a un élément qu'on... Enfin, je ne sais pas si c'est important de le mettre. Peut-être que Phil, il aura un avis intéressant là-dessus. C'est l'ambiance à la Gotardo Arena. Ce n'est pas la Corner Arena ni l'Île Fils. On sait que les fans d'Ambry, ils vont mettre une pression folle. Est-ce que le jeune Keller, qui a par exemple pris un rouleau après quelques secondes à Berne dans une immense patinoire, peut tenir l'ambiance de la Gotardo Arena par rapport à l'expérience de Ciaccio, qui a vécu à Ambry, qui connaît Ambry? Personnellement, je trouve que Ciaccio a plus d'armes pour cette série que Keller. On va peut-être pas te demander de répondre à cette question-là, Phil, mais sur l'ambiance à Ambry, ce sera une des clés de la série aussi, ça?
Très bonne question. Moi, je pense que la clé pourrait être l'ambiance à Porrentruy aussi. Parce
on est d'accord, ouais.
Quand les gens se mettent à chanter, voilà, moi, je pense qu'on s'entend tous, je crois, sur un point, c'est que les deux gardiens vont avoir le filet à un certain moment donné dans la série, fort probablement. Donc, les deux doivent être prêts. Je pense pas que un sera plus impressionné que l'autre ou quoi que ce soit. Je pense que ça va être un de ces deux-là. Les autres, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gardé les buts. Et puis, peu importe qui c'est, ben nous, de toute façon, notre système de jeu devant eux ou de la manière qu'on joue, notre envie, notre détermination ne va pas et ne doit pas changer non plus. Donc, voilà, moi, il n'y a pas d'importance. Et puis, j'ai confiance aux deux gardiens, peu importe qui sera devant le filet lors du match numéro 1.
Tu parles de l'ambiance à Porrentruy, Phil, il y a aussi une donnée qui va compter. Vous n'avez pas été bon à domicile cette saison. Il faudra absolument vous reprendre durant ce play-out et puis gagner des matchs à la maison.
Oui, absolument. Moi, je pense que vous avez dit les gardiens. Puis je vais faire une petite parenthèse. Je pense qu'une des raisons du pourquoi que l'année passée, on avait eu un bon début de série contre Lugano, c'était les unités spéciales. Donc pour moi, le gardien et les unités spéciales au début de la série vont être tout au long de la série, hein, mais on veut évidemment partir du bon pied, comme on avait fait à Lugano, essayer de voler ce match numéro 1.
Les unités spéciales, on peut en parler un petit coup, parce qu'effectivement, c'est souvent quelque chose de décisif dans une série. On a vu sur les derniers matchs quand même que la deuxième unité de powerplay du HCA actuellement est plus efficace en tout cas que la première. Est-ce qu'il faut s'attendre à des évolutions? Est-ce qu'il faut préparer au millimètre?
Oui.
Évidemment. Bien sûr, évidemment, ça se prépare, ça. Il y a beaucoup de vidéos et de choses comme ça, de travail là-dessus. Mais on est là actuellement, on est le jeudi 12 mars. Les play-outs, c'est dans 9 jours, si j'ai bien compté. avec quel joueur. Il y a quand même une part d'inquiétude de savoir qui sera sur la glace dans 9 jours. Hein. Au dernier match, Johnny n'était pas là, Otto Lionka n'était pas là, Turkulainen n'était pas là. C'est des données à prendre en compte aussi par rapport à ce début de play-out. Seront-ils sur la glace?
Ouais, après, tu parles justement des unités spéciales. Bah, si on prend les statistiques de l'année, des 4 matchs, hein. Ambry a marqué 5 buts en power play contre nous, nous n'en avons mis qu'un seul. Donc, il faudra clairement s'améliorer sur ce point-là. Après, du côté d'Ambry aussi, on va dire aussi que leur playmaker en power play, il est plus là. Hein. Dido, il s'est fait shooter. Et puis, c'est un joueur super important sur les situations spéciales. Après, à Joie, tu parles des joueurs qui seront là. Il y a des blessés, il y a des joueurs suspendus aussi du côté d'Ambry. Hein. Il y a Muller qui sera suspendu 2 matchs, donc il ne va pas jouer les 2 premiers. Moi, j'ai envie de dire, peu importe qui sera sur la glace. Hein. À Lausanne, on allait chercher la victoire avec 4 étrangers et puis en faisant jouer des joueurs qui revenaient de balle, comme chez Lepfer. Donc, peu importe qui sera sur la glace, moi, ce n'est pas le truc qui m'inquiète plus que ça.
Dans l'œil de la vouivre.
Dernière partie de cette bande du jeudi, Rafi, oui. Tu nous emmènes jouer.
Exactement, je dois me battre pour cacher ma feuille parce que mon voisin de droite veut lire mes réponses. Alors, donc, je
le voisin de droite, c'est Phil Michael, hein, si jamais c'est pas moi. Ouais, bah, moi oui, parce que tu...
je pensais que ça passerait que du tout.
Yann, il est aussi à droite, hein. Il n'y a que moi qui suis à gauche sur le coup là.
Bon, on y va, un quiz spécial.
Un quiz
de Vos.
Ambry.
Ah, Ambry, ok.
Ouais, voilà, je suis hyper original, mais voilà, c'est l'occasion de s'immerger déjà dans l'ambiance de la Gotardo Arena. Alors, moi, j'ai prévu 5 questions, 5, hein, Yann, une question réservée à nos auditeurs. Voilà, on fait comme date, on va laisser un tour d'avance à notre avis. On y va.
C'est parti.
Première question, elle tourne autour des confrontations directes entre les deux équipes. 4 matchs cet hiver. Yann, je sais qu'il a révisé. 3 victoires pour Ambry, 1 pour Ajoie. J'ai compté un total de 25 buts dans ces duels. The question, qui a été le meilleur buteur dans ces 4 matchs? C'est donc celui qui s'est montré le plus décisif. Indice, Di Domenico n'a pas marqué un but contre le HC Ajoie cet hiver.
Formenton,
non, 2 buts.
Joli,
2 buts aussi. Quel a été le meilleur buteur dans les séries entre Ambry et Ajoie?
C'est quand même pas Onka.
C'est Onka. Anthony Onka, 4 buts. Nettinen, 3 buts. Sverger, 2. Joli, 2. Formenton, 2. Et une flopée d'autres joueurs à 1 but. Voilà, deuxième question, on va faire un qui suis-je, parce que faut être un peu punchy, m'a dit Michel Léoni. Alors je vais vous présenter un joueur façon Julien Lepers, et vous devez me donner son nom. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis un joueur de hockey sur glace suisse, habitué aux patinoires de National League. Je suis né le 17 octobre 1994 à Mairengo, une commune qui se situe à côté de Calpignona, Campello, Cavagnano, Chironico, Anzonico et Osco. Je joue au poste de défenseur où mon rôle est de protéger mon gardien, bloquer les attaques adverses et relancer le jeu. Je porte aujourd'hui des couleurs bleues et blanc au sein d'un club.
Zaccheo Dotti,
tessinois, réputé pour ses supporters passionnés. Avant cela, j'ai porté les couleurs du HCA avec qui j'ai eu la joie de remporter la Coupe de Suisse en 2020 et donc de côtoyer Philippe Michael de Vos sur la glace. Je partage aussi une particularité familiale.
Je joue avec mon frère.
Qui s'appelle
Isacco.
Voilà, c'était Zaccheo Dotti.
Il est bon, Julien Lepers. Hein.
Voilà. Troisième question, question Wikipédia. Citez-moi les numéros retirés et les noms des joueurs qui ont fait la légende à Ambry.
Peteriax.
Excusez-moi, il y en a 4.
Peteriax, je suis sûr.
Numéro 19, ça fait 1.
Il n'y a pas
Luca.
Il y a le 8, non?
Il y a le 8.
Ah, Paolo Duca.
Paolo Duca, ouais. 46.
Ouais. Le 8 de Celio, on n'a pas dit, mais c'est Manuel Celio.
Alors, tu as le bon nom, tu n'as pas le bon prénom.
C'est pas Manuel Celio?
Ah, c'est le
frère, ouais, je pense.
Nicolas Celio, 8. Ah, ouais. Peteriax, 19. Et Paolo Duca, 46. Il manque un...
Un étranger.
Un étranger. Oh, il est fort, Yann Voya. Vas-y.
Dale McCourt.
Oui. Oh là là, alors celui-là... Ouais.
Voilà, là, c'est 2 points, là.
C'est plus son numéro, par contre.
T'étais à l'imprimante après moi, là, quand j'ai imprimé.
Non, j'étais à la Gotardo Arena, puis j'ai regardé les maillots, justement.
Dale McCourt, numéro 15, voilà. C'était pour rappeler aussi qu'Ambry a une forte culture, une identité, et puis des joueurs qui ont marqué aussi ces belles années. Question 4. Depuis 2000, à combien de reprises Ambry Piotta a-t-il disputé une série de play-out? Je vous écoute.
Depuis quand t'as dit
Depuis 2000.
Depuis 2000.
Allez, on laisse Phil tenter sa chance en premier, quand même.
Donc, c'est entre 0 et 25.
Hein. Ouais, mais je sais que justement, on dit toujours qu'Ajoie est en bas de classement, mais Ambry est resté un sacré paquet d'années. Hein.
Je like un magnifique chiffre au numéro 8.
Il me l'a volé. Non, moi je dirais 6.
4.
C'est 12.
Oh, 12 purée, 12 fois les play-out.
Voilà, alors donc, plus le proche, il gagne. Un point pour Phil. Yeah!
Non, non, on te demande de gagner dans 10 jours, Phil.
Donc, 12 fois.
Ouais, et 4 défaites. Donc 4 fois, ils ont dû passer par le barrage. Donc ça fait 75% de réussite dans cet exercice. Voilà, pour un club qui est dans l'élite du hockey suisse depuis 1985. Voilà. La cinquième, je vais faire de la toponymie Ambri-Piotta. Combien d'habitants ? Environ 500, voilà, pour les deux villages qui font désormais partie de la commune de Quinto. Ambri, c'est son aéroport, pour être exact aussi, son accent grave sur le « i ». Mais d'où vient le nom Ambri ? Est-ce que vous arrivez à me dire ce que veut dire Ambri ? Petit indice, on reconnaît le mot en français, là, dans le son, là, on reconnaît un petit peu le mot, et puis pensez aussi à la géographie des lieux.
Voilà, quelque chose d'un peu encastré, comme
ouais,
ça ?
Oui, 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 oui. On y est là, je suis pas dans la question, là.
Ambre ?
Vas-y, vas-y.
Ambre.
C'est l'ombre.
C'est l'ombre.
Ah, voilà. Ok.
Et ouais, ouais, le nom veut probablement dire ombre. Le village étant situé au sud de la vallée, au pied du Pizzo Massari, il ne voit pas le soleil pendant plusieurs mois en hiver.
Et encore un point pour Yann.
On est bon, voilà. Lors de notre dernière émission, c'était il y a 2 semaines avec Arnaud Nussbaumer comme invité. C'était une émission super sympa qui, comme les autres, se réécoute en tout temps sur les supports traditionnels. Michel était aux commandes du quiz. Il a posé une question justement sur le défenseur de Suisse centrale. La question était qui accompagnait Arnaud Nussbaumer lors de son transfert de Zoug à Ajoie. Et la réponse était
Louis Robin.
Louis Robin, voilà, c'était Louis Robin. Le gagnant, c'est Nicolas de Glovelier. Merci et bravo à lui. Un cadeau aux couleurs de la bande du jeudi qu'on va lui envoyer tout bientôt. La nouvelle question, c'est la question du jour qui concerne Philippe Michael De Vos. Voilà, notre invité. Il est au HC Ajoie depuis 2015, on le sait. Je vous demande sa position dans le classement des meilleurs compteurs de l'histoire du HC Ajoie. Quel rang occupe-t-il donc dans la grande histoire du club avec ses 783 points? Si je ne m'abuse, je pense que derrière lui, on doit retrouver Steven Barras, me semble-t-il. Voilà, je vous demande la position de Philippe Michael De Vos. Vos réponses directement sur la page consacrée à la vote du jeudi, sur le site internet de RFJ, où vous retrouverez un formulaire. Vous notez votre réponse et les coordonnées aussi par mail à l'adresse bdj@lqj.ch. Là aussi, la réponse et vos coordonnées. Et on vous donnera le nom du vainqueur lors de la prochaine émission. Cyprien, la prochaine émission qui aura lieu
jeudi prochain.
Ok, déjà, c'est ça. Explique-nous.
Bah écoutez, je crois que ça, si on veut pas rater le fait de marquer le coup, il faut le faire jeudi, parce que dans 15 jours maintenant, on va fêter quand même les 10 ans d'un certain titre. Phil, ça te dit quelque chose, le 1er avril 2016?
Vaguement, oui, oui, je me souviens, ça me dit quelque chose.
Alors on s'est dit que, ben, effectivement, on voulait peut-être pas mettre ça au milieu d'une série de play-out, donc on va faire une émission spéciale jeudi prochain avec des, j'allais dire, des anciennes gloires, peut-être aussi des actuelles.
On garde la surprise pour l'instant, c'est ça.
Mais plusieurs anciennes gloires. Yann ne sera pas considéré comme ancienne gloire à ce moment-là.
Hein. Ah. Ok, merci.
Puisqu'il n'était pas sur la glace le 1er avril 2016. Mais
non, j'étais au stand hot dog, il paraît. Non, j'étais en vacances en Guadeloupe.
Puis ah bah bravo.
Et puis je le regrette encore parce que je n'ai pas vu ce titre.
Effectivement, émission spéciale, jeudi prochain, ne manquez pas, spécial titre, on va revenir sur les 10 ans de ce titre, on va un petit peu se refaire les anecdotes de cette série, de ces séries de play-offs, où je me souviens notamment qu'un certain Philippe Michael De Vos était à un moment donné tout blond.
Eh ben, c'est vrai ça,
ouais, ça me parle.
Merci, belle soirée, et merci puis Phil, ben, à fond pour ces play-outs.
Yes, merci.
Ciao, ciao.
À bientôt.
La bande du jeudi.